Sylvestre Maurice, je suis astrophysicien et dans la famille des astrophysiciens, je suis planétologue, spécialiste de l'exploration du système solaire.
Quel a été votre parcours d'étudiant ?
Ah, étudiant, grandes écoles, prépa à grandes écoles, école super-héros, donc école d'aéronautique espace, thèse d'astrophysique, différents post-docs. L'Agence spatiale européenne, Los Alamos National Lab, donc je pense que les postdocs font partie encore de la formation jusqu'à atterrir ici, à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, à l'IRAP, le laboratoire d'astrophysique et planétologie.
Y a-t-il eu une rencontre en particulier en lien avec les domaines de l'astrophysique et du spatial qui a pu motiver votre parcours académique ?
Ah oui, je crois que nos carrières sont faites de rencontres. C'est ça qui est important, hein, c'est de l'humain. Et j'ai eu la chance de rencontrer Sylvie Vauclair, qu'on connaît bien en France, une de mes premières enseignantes. Et puis ensuite, des personnes toujours très charismatiques, Michel Blanc, mon directeur de thèse, Jean-Pierre Le Breton. Et puis aux États-Unis, quelqu'un qui s'appelle Bill Feldman, avec qui on a travaillé ensemble. Donc, voilà, j'ai plein de noms et j'en oublie d'autres. Roger Wins, mon partenaire. Sur les projets martiens, notre métier est fait de rencontres, ça c'est sûr.
Pouvez-vous nous présenter le dispositif ChemCam du rover Curiosity ? Comment est né ce projet ? Quels ont été les objectifs de cet instrument ? Où en est-on du point de vue des récoltes de données ?
Alors, ChemCam, c'est un instrument parmi 10 hein, d'une mission de la NASA qui s'appelle Curiosity, qui a été construite par le Jet Propulsion Laboratory, qui, aux alentours de 2004, fait un appel d'offres en disant « on va vous faire la voiture dont vous rêvez tous ». Il fait à peu près une tonne, qui peut faire 20 km, qui fonctionne la nuit, le jour, l'été, l'hiver, etc. Vous en rêvez. On va explorer l'habitabilité de Mars. Est-ce qu'il y a les conditions physico-chimiques pour que la planète soit habitable ? Qui veut monter à bord ? Évidemment, on lève la main et on est plusieurs à lever la main. Il y a une compétition qui retient d'ailleurs pas forcément les meilleurs, qui retient une charge cohérente, c'est-à-dire que chaque instrument doit répondre à la question de l'habitabilité. Et puis, c'est en croisant les informations des instruments entre eux qu'on pourra conclure. Cette sélection conduit à prendre à bord ChemCam, un instrument qu'on a conçu, imaginé entre le Los Alamos National Lab et un consortium de laboratoires français emmené par le CNRS et le CNES, les universités. Et il se trouve que ChemCam sera le premier instrument français à la surface de Mars, qui va se poser en 2012 avec un compagnon quand même, SAM, un instrument qui a une contribution française des colonnes de chromato faites par nos collègues de Paris. Donc, ChemCam se pose avec Curiosity dans le cratère Gale. Le comité scientifique a décidé la pertinence de ce cratère pour l'étude de l'habitabilité. Et depuis bientôt 9 ans, on est en train d'étudier l'habitabilité passée de Mars. ChemCam joue son rôle en tant qu'explorateur géochimique. Il est équipé d'une caméra, très petit champ, hein, petit champ, mais très haute résolution, et puis d'un laser de puissance, un peu, vous savez, une spécialité française, les lasers. Et en focalisant ce laser, on est capable de créer un plasma jusqu'à 8000 degrés. Et ce plasma rayonne et il va rayonner depuis le visible jusqu'au proche infrarouge. Et donc, on va capturer cette lumière et le rayonnement de ce plasma va nous donner la composition chimique. C'est ça l'instrument qu'on avait imaginé. Alors, on l'avait imaginé en 2001 avec mon comparse Roger Wins, tous les deux. On avait d'ailleurs fait une époque de R&D pendant 3-4 ans, de façon à ce qu'au moment où l'appel d'offres sortait de la NASA, on puisse répondre avec cet instrument. Alors, cet instrument a fait ce qu'on lui demandait, peut-être même plus, on en est toujours émerveillé. Il fonctionne donc depuis 9 ans. Il a fait à peu près 850 000 tirs laser, et chacun des tirs laser donne donc dans cette bande de longueur d'onde eh bien, des émissions qui correspondent à l'oxygène, les éléments majeurs, hein, le fer, le silicium, l'aluminium, le calcium, le sodium, le potassium, et puis même des qui vont nous dire comment la roche s'est formée globalement, quelle est sa nature profonde, et puis des éléments traces, le lithium, le barium, le strontium, qui vont nous informer sur l'évolution de cette roche, en particulier la présence d'eau. Donc, c'est un instrument qui voit des dépôts de manganèse, qui voit des sulfates de calcium, qui a vu des oxydes de fer, enfin, pas mal de choses d'un point de vue chimie. C'est un instrument de chimie atomique. Alors, il n'est pas seul, il y a les caméras sur Curiosity, mais il y a aussi au bout du bras un autre instrument de chimie, on est assez complémentaires. Et puis SAM, ce laboratoire extraordinaire qui va faire des analyses moléculaires complexes en chauffant la matière, Kémine qui fait de la minéralogie, qui est aussi un laboratoire, donc c'est une charge utile compliquée qui ensemble dit aux alentours de 2013-2014 assez vite, eh bien écoutez, Mars fut dans le passé une planète habitable. Et donc, alors c'est une découverte très technique, hein, parce que on dit qu'on a vu un peu de chimie organique hein, grâce à SAM, mais on a vu grâce à ChemCam et aux autres instruments qu'on était dans un fond de lac asséché et qui n'était pas acide, qui n'était pas basique. Enfin voilà, plein de propriétés pour dire que c'était une planète habitable. Donc, c'est une grande révolution, hein, parce que vous pensez à cet univers de milliards et de milliards de planètes, et pour l'instant, il n'y en avait qu'une seule habitable, maintenant, il y en a deux. Alors, ce n'est pas une habitabilité d'aujourd'hui, hein, c'est une habitabilité du passé, c'est-à-dire il y a 3,7 milliards d'années environ, et ça nous ouvre le champ à un univers rempli, finalement, de planètes habitables. Et donc, Curiosity a fait le boulot et il continue. Il faut qu'on caractérise cette habitabilité. Est-ce qu'elle a duré dans le temps? Comment elle s'est arrêtée? Puisqu'aujourd'hui, la planète Mars n'est plus habitable. Donc, on continue notre excursion. Et Curiosity, après 9 ans, va bien. Alors, on commence à sentir que ça coince un peu ici ou là. On a la mécanique qui devient difficile, l'électronique qui souffre. Hein. On a des gradients de température entre le jour et la nuit, il fait 90 degrés de différence. Donc, les nuits sont froides, on peut vous le dire. Et donc, voilà, la très, très belle technologie américaine qui a eu la délicatesse et de nous inviter à bord et sous la maîtrise d'ouvrage, évidemment, du CNES. Hein, en France, on est avec le CNES, les laboratoires scientifiques et puis des industriels, hein, il va falloir plein de monde, ont pu construire cet instrument ChemCam pour nos amis parisiens contribuer à SAM, cet autre instrument. Et ensemble, eh bien, on a livré nos instruments, on fait notre science, et la NASA dit, écoutez, on a l'impression que vous avez fait du bon boulot. C'était un peu avant qu'on se pose. Est-ce que vous êtes prête à les opérer? Est-ce que vous êtes prêts à les opérer à Toulouse? À Toulouse, on montre un centre opérationnel, et depuis 9 ans, on opère les instruments français. Alors, opérer un instrument, ce n'est pas simplement dire je tire au laser, c'est dire ah oui, mais j'ai besoin de l'énergie, est-ce que quelqu'un l'utilise? J'ai besoin de la télémétrie, j'ai besoin de rouler. Donc, il y a tous ces paramètres qui font qu'on a un peu l'impression de piloter tout le rover. C'est un ensemble, au début, de plus d'une centaine de personnes, maintenant on est un petit peu moins, qui tous les jours décident ce que doit faire le rover. Alors, on le fait ici à Toulouse, une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est nos collègues de Los Alamos qui le font. Et on pilote toutes les ressources de façon à prendre une décision scientifique en disant bah, « Demain, je vais regarder le soleil, ou plutôt je vais faire un tir laser ». Ou plutôt, je vais prendre une image, ça c'est pour ChemCam, et puis l'instrument d'à côté il décide de poser le bras, celui d'à côté décide de faire une mesure, par exemple, d'environnement radiatif, etc. Donc voilà, c'est de la science commune, collaborative, c'est certain, plein de nationalités, les États-Unis en tête, vient ensuite la France, et puis nos collègues espagnols, et puis des Russes, et puis des Canadiens, pour Curiosity. Et donc, une belle mission qui n'a pas fini, hein. On a du mal à arrêter nos missions et c'est juste. Là, on a une nouvelle frontière devant nous, une frontière qu'on appelle une région de sulfate qu'on a repérée à distance orbitale et qui doit nous dire peut-être comment se termine cette période d'habitabilité. Voilà, donc c'est une belle mission, une des missions du grand programme martien, pour l'instant la plus agile, ou jusqu'à quelques mois, et la plus performante à la surface.
Bien. Quelles sont les retombées sur la société civile de ce dispositif utilisé par le laser ChemCam? Certains soulignent qu'aux États-Unis, le docteur Nureddin Melikshi et son équipe ont mis au point une nouvelle technique d'analyse basée sur le laser de Curiosity, permettant ainsi de dépister le cancer de l'ovaire.
Ah oui, alors, c'est une thématique importante de l'exploration spatiale, de savoir comment on va, l'exploration spatiale, c'est quoi son objectif? C'est la connaissance, pour ce qui nous concerne, au-delà de l'orbite de la Terre. Connaissance assez fondamentale des origines de la vie, des origines des planètes, du fonctionnement de tel ou tel volcanisme, atmosphère, etc. C'est de la connaissance. On investit beaucoup. En investissant, souvent on nous dit, mais qu'est-ce qu'on a en retour ? Alors on dit, oui, on a de la connaissance, oui, bon, ça, il y a quelques personnes que ça émeut, d'autres un peu moins, et alors d'autres, on leur dit, bah, écoutez, d'abord, on a fait travailler des industriels qui ont besoin, parce qu'on a besoin de construire, de faire de la technologie, et en faisant cette technologie, ils ont potentiellement développé des nouvelles technos. Ce n'est pas les objets. Un rover martien en lui-même, vous le mettez dans les rues de Paris ou de Toulouse, il est assez pathétique quand il fera ses 20 mètres dans la journée ou ses 50 mètres dans la journée, avec un réacteur nucléaire qui quand même rayonne un petit peu, avec une petite puissance électrique, ce n'est pas un transformeur. Son avantage, c'est qu'il est capable de fonctionner en relative autonomie dans des conditions absolument extrêmes. Et donc, le spatial cherche une certaine performance, mais avant tout une grande fiabilité. Et il a traversé un chemin de plus de 300 millions de kilomètres. Il s'est posé, il a décollé, il s'est posé dans des conditions absolument extrêmes. Il y a des gros gradients de température, il y a des radiations, etc. Donc, on imagine, faut pas imaginer que le spatial construit le top de la technologie. Le top de la technologie, c'est le téléphone. C'est impressionnant tout ce qu'il y a dans un téléphone. Ne serait-ce qu'un récepteur Galileo grand comme un… Voilà. Ceci dit, un téléphone ne tiendra pas les vibrations, les chocs, etc. Et donc, il ne faut pas se tromper. On va aider nos industriels à faire surtout des savoir-faire. Comment coller un bout de métal à tel autre. Et en cela, on participe effectivement au développement de la technologie de haut niveau. Il arrive de temps en temps que nos instruments puissent les réutiliser. L'instrument CAM-CAM, en soi, des instruments basés sur la technologie d'ablation laser existent depuis longtemps. Hein. Ils s'appellent des instruments qu'on appelle LIPS, qui sont études pour faire des études de sol, des études d'analyse atomique diverses et variées, des explosifs, et pourquoi pas, dans le cas de Noureddine est un membre de notre équipe, hein, on connaît très bien depuis maintenant une quinzaine d'années, et Noureddine développe une partie de l'application LIPS sur des biomatériaux avec des recherches de type cancer, avec un certain succès. L'apport, il aurait pu le faire probablement sans le spatial, il faut être très honnête. L'apport du spatial a permis de regrouper à un moment donné sur cette technologie beaucoup de monde, à essayer de pousser un peu aux limites la technologie et en particulier les logiciels de traitement de données par analyse multivariée, différentes classifications, etc. Et donc, il aurait pu le faire sans le spatial, hein, Noureddine, mais ça lui a donné un nouvel élan et on fait partie aussi de cet élan. Et donc, pour revenir à votre condition initiale, quel est l'apport du spatial ? N'oublions jamais que c'est d'abord de la connaissance. Ponctuellement, c'est du développement technologique sur certains savoir-faire. Ponctuellement, ça peut être des logiciels de compression de données, de traitement, etc., des choses, je dirais, pratiquement du deuxième ordre. Mais avant tout, c'est de l'inspiration. C'est montrer aux jeunes, et vous êtes complètement dans cette dynamique, que la science, c'est cool. Que la technologie, ça nous dépasse et on peut faire des très, très belles choses. Et je pense que c'est peut-être le plus grand apport de notre discipline, c'est de non seulement de faire rêver les gens. Les gens aiment cette exploration planétaire, c'est très clair. C'est pas de leur dire « on va vous emmener là-bas un jour », c'est pas l'objet. C'est vraiment de dire à toutes, aux garçons et aux filles, on a en plus besoin d'emmener les jeunes filles vers les sciences, en disant, bah écoutez, si vous faites de la technologie, si vous faites des sciences, il y a vraiment des mondes à découvrir et on espère que ça va inspirer les jeunes.
En quoi consiste l'instrument SuperCAM à bord de Perseverance ?
La NASA, suite au succès de Curiosity, en particulier dès qu'on se pose et puis la science qui avance, décide d'en faire un autre, en disant, bah écoutez, vous nous avez montré que la planète est habitable, dites-nous s'il y a eu des traces, s'il y a eu de la vie, et est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de trouver des traces de vie. Beau challenge, difficile. On ne le refait pas une telle question avec la même charge utile. Et donc, la NASA refait un appel d'offres avec une nouvelle charge utile. Nous, entre-temps, on avait fait évoluer un petit peu notre instrumentation. Et donc, on a proposé à la fois un instrument qui est hérité de CamCam, qui est au moins hérité de l'imagerie à haute résolution et de l'ablation par laser pour la composition chimique, mais aussi qui innovait avec, en plus des deux techniques qu'on avait, trois nouvelles techniques, deux techniques de minéralogie, soit Raman, soit infrarouge, et puis un microphone. Donc, on s'est donné un défi, alors qu'on donne à nos ingénieurs, hein, c'est eux qui vont faire le travail dans le laboratoire, et puis avec nos industriels, en disant, écoutez, on va déjà, on vous donne pas plus en masse, on vous donne pas plus en volume, vous avez à peu près une dizaine de kilos, mais dans les 10 kilos, là où vous aviez deux techniques, vous en mettez 5. Donc, vous décompressez tout. Et la NASA a accroché sur cette idée, puisqu'elle a sélectionné l'instrument qui était un super CamCam qui devient SuperCam, qu'on construit entre 2014 et puis 2020, globalement, la fusée finir par partir. Et cette année, le 21 février, se pose à bord, sur Mars, dans le cratère, cette fois-ci le cratère G0. On aime bien les cratères parce que ce sont des dépressions. En général, il y a de l'eau qui stagne pendant longtemps. Et donc, avec pour mission, avec les autres instruments, cette fois-ci, il n'y en a plus 10, mais il y en a simplement 7, parce qu'il a fallu faire de la place, et vous allez voir pourquoi, pour un énorme système de manipulation. Et donc, c'est 7 instruments, avec toujours des caméras, 2 instruments au bout du bras, ma météo, un radar. Donc, des instruments avec des collaborations étrangères, toujours dans cette philosophie de la NASA d'aller chercher l'excellence là où elle est. Et nous, on va répondre en collaboration, encore une fois, avec Los Alamos. Et puis, avec aussi des petits délires technologiques absolument super. Hein, MOXIE, une fabrique d'oxygène pour les astronautes un jour, il fallait le faire et c'est fait, ça fonctionne bien. Ingenuity, une prouesse de faire voler de faire un vol motorisé sur Mars, absolument incroyable, alors qu'il y a très peu d'atmosphère. Et donc, un nouveau véhicule qui finira par prendre le nom Persévérance, dans un nouveau cratère, le cratère G0, une nouvelle science, recherche de traces de vie, qui peut être faite de deux façons, soit dans une façon, c'est l'exploration in situ, je cherche, je regarde ce que je vois, est-ce que je vois quelque chose qui ressemble à des traces de vie? On sait que c'est pas simple, hein. Curiosity nous a dit chercher dans une fenêtre de temps d'il y a au moins 3 milliards d'années, et donc les traces sont probablement très ténues. Il y a beaucoup d'érosion, c'est moins actif qu'une érosion terrestre. La Terre efface son passé. Heureusement, Mars a une tendance à conserver son passé. L'érosion est lente, un peu d'eau, beaucoup du vent. Et donc, on sait que ça va être difficile. On va le faire in situ, mais si on n'y arrive pas in situ, on va se donner une deuxième chance en préparant des échantillons qu'on emballe dans des petits tubes et qu'on va pouvoir rapporter sur Terre en 2031. Et donc, Persévérance est la première mission de retour d'échantillons. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça fait 20 ans que tous les planétologues martiens disent « le Graal, c'est un échantillon ». À l'image de ce qui a été fait sur la Lune, le Graal de l'exploration lunaire a été les échantillons. Eh bien, on y est parti et on va comme ça rapporter ces échantillons. On n'a pas encore prélevé le premier, on en a 40 à prélever, on va se donner à peu près 6 ans pour le faire. Et un instrument comme SuperCam, eh bien, il a ce rôle de regarder autour en disant « par là, ça a l'air pas mal, on y va ». Je caractérise les roches en disant « tiens, celui-là, il a un peu plus de fluor, de machin, de truc, de manganèse ». Hop, celui-là, on le prend. Et là, on le prend, on le met en boîte, on le garde avec nous. Au bout d'un moment, on le dépose au bord du chemin et puis on se retourne vers les agences spatiales en disant eh, « là, il est temps d'aller les chercher ». Et les décollages devraient se produire pour 2 missions vers 2026 pour des retours. Une mission qui met les échantillons en orbite et une mission qui les rapporte sur Terre. 2 missions différentes faites entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Donc, on retombe dans cette dynamique d'un programme international.
En tant que Français et en votre qualité de co-responsable de projets de grande envergure et de renommée internationale, comment vous positionnez-vous dans ce contexte mondial où la concurrence côté spatial est rude? Comment affirmer Dit autrement, la présence française garante d'un savoir-faire d'excellence. Tout cela en considérant l'émergence des différentes start-up, la présence incontournable de la NASA, le développement du spatial chinois, russe, pour n'en citer que quelques-uns.
Il faut reconnaître que effectivement l'univers du spatial évolue et c'est une très bonne chose. Il faut reconnaître aussi le mérite des agences spatiales nationales qui ont fait naître des fusées, des satellites, mais aussi des écosystèmes industriels qui vont ensuite prendre de plus en plus d'importance, prendre de l'autonomie et commencer à faire cette exploration par elles-mêmes. Alors, il ne faut pas se tromper non plus, 98% du spatial, c'est la Terre. C'est mettre un satellite autour de la Terre pour des communications, pour des observations, pour la navigation, pour ensuite différents champs, qu'ils soient militaires, qu'ils soient météo, etc. Nous, on ne compte pas dans cette histoire. Les gens qui explorent le système solaire sont une infime petite partie. C'est encore un monde réservé en grande partie aux agences. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique. On ne construit pas un modèle économique avec de la donnée de composition des roches sur Mars. Ça serait bien, mais ça reste de la connaissance. Donc, les fabriques de connaissances sont encore organisées par les agences spatiales. Et puis d'ailleurs, l'agence spatiale, il ne faut pas se tromper, hein, il y a de nouveaux acteurs, mais c'est elles qui financent, elles qui définissent la politique, donc il n'est pas question de les mettre hors course. Quant à la science fondamentale, elles en restent les pilotes. Elles peuvent contracter à de nouveaux entrants, petites ou grandes entreprises, des véhicules, des bras, mais gardent le plus souvent dans le champ académique les instruments. Pourquoi ? Parce que si un véhicule comme Perseverance fait plus d'une tonne, hein, il a moins de 10% de sa masse, qui est la charge utile, et une charge utile qui va faire la science. Et cette charge utile, elle est faite près là où on étudie, où on fait la recherche, c'est-à-dire dans le monde académique. Et donc, le monde change. On reste quand même près des laboratoires de recherche. En France, c'est le CNRS, les universités, avec évidemment le CNES, qui sont capables de faire ces instruments. Qu'est-ce qui fait la valeur donc de notre savoir-faire français ? Ben, en fait, c'est cette aventure, on l'a vécue ou on la vit depuis très longtemps. On s'est fait une spécialité de très beaux instruments sur des missions. Au niveau français, en propre, on développe rarement des missions. Ça nous arrive. Mais souvent, on contribue à d'autres missions. Notre agence, c'est aussi l'Agence spatiale européenne. Et le CNES, donc on met la moitié de notre argent au CNES, la moitié de notre argent à l'Agence spatiale européenne, et puis le CNES, on pilote un peu ce qui se passe là-haut, et eux vont faire un véhicule, prenons JUICE qui va partir vers Jupiter, Messenger ça c'est côté américain, Messenger c'est américain, mais côté américain, BepiColombo vers Mercure, ou bien une mission martienne, et vous n'oubliez pas la mission ExoMars, qui est la mission martienne européenne, l'agence fait ces missions, et la France fait des instruments. Et la France, avec le temps, a développé des filières d'instruments, soit autour de la chimie, comme je viens d'en parler, Curiosity, avec ChemCam, Perseverance SuperCam. On a aussi un instrument sur ExoMars. On a une contribution sur, avec les Chinois. Aussi des instruments autour des sismomètres, avec des très belles réalisations sur InSight, par exemple, sismomètre martien. Des instruments infrarouges, d'observation à distance. Donc, on a des familles d'instruments de chimie, par exemple. Et donc, ces familles qui ne sont pas des niches, hein, qui c'est plus que des niches, nous ont fait une communauté très puissante en planétologie et qui, je pense, nous place derrière les États-Unis, en particulier pour Mars, pour la Lune, peut-être un peu derrière, en collaboration avec les Allemands, qui aiment beaucoup la Lune. Chacun définit son champ, mais je pense que les instruments, plus les chercheurs qui les portent, et puis ceux qui sont modélisateurs, par exemple, du climat, font des travaux impressionnants, tout ça avec, encore une fois, notre ensemble d'industriels, d'agences spatiales et puis même de centres de culture scientifique et puis des relais comme vous, les médias, place la France tout en haut de l'excellence en exploration, peut-être derrière les États-Unis qui en ont fait un cheval de bataille, un étendard depuis plus longtemps que nous avec plus de moyens, mais je dirais qu'ils sont un peu seuls à faire la course en avant avec les Chinois maintenant qui commencent à les talonner. Et puis nous, dans notre champ, avec un petit peu, peut-être des choses un petit peu plus ciblées, la France a un très, très beau rôle à jouer. Ça peut durer à condition qu'on reste dans cette dynamique de multiplier les accroches avec l'Agence spatiale européenne, notre principale accroche, mais aussi avec la NASA, parce qu'on fait des approches bilatérales ou plus complexes, et puis maintenant avec la CNSA pour nos amis chinois. Et puis, on a des collaborations avec les Japonais, la JAXA, avec l'ISRO, et donc c'est l'Inde, avec la Russie, qui sont en fait tous ensemble les acteurs principaux de l'exploration interplanétaire. Donc, on a notre rôle, on le tient, on est présent, je pense, partout, dans toutes les commissions, dans toutes les choses. Le spatial, vous avez raison, se modernise, se renouvelle plutôt côté lanceur dans un premier temps, et puis ensuite côté véhicule. Côté instrumentation, on est encore très proche des laboratoires scientifiques parce que c'est eux qui vont analyser la donnée. Donc, c'est plus sain que ce soit eux qui construisent leurs instruments.
Alors, pour terminer, que conseillez-vous aux jeunes intéressés, jeunes hommes et enfin garçons et filles, intéressés par les sciences en général et l'astrophysique et le spatial en particulier?
Bon, c'est très clair, c'est notre mission. Notre mission, elle est de faire la recherche, c'est clair, mais aussi de se tourner vers les jeunes, dont notre rôle, c'est un rôle pédagogique. On est des enseignants. Et donc, on enseigne des stages de découverte, les plus petits jusqu'en thèse, évidemment, dans tout le champ, et puis même après. Mais notre rôle est aussi de communiquer. Et je vous remercie de me donner l'occasion de communiquer, cette communication qui va permettre d'inspirer les jeunes, de leur les faire venir, si possible, vers les sciences. Et vous l'avez dit, garçons comme filles, dans notre univers latin, on est encore assez mauvais dans cette parité, donc il faut rétablir une parité, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas, et leur dire que vous pouvez aller vers des petites entreprises comme des grosses, petites entreprises qui fera un connecteur, un petit bout de telle chose, ou bien une énorme entreprise, ce qu'on appelle des primes, des agences spatiales qui font des véhicules ultra complexes. Et en fait, c'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est que cette industrie du spatial peut vous permettre de vous épanouir, soit dans des disciplines, il y en a qui aiment la mécanique, l'électronique, l'optique, la qualité, etc. Plein de disciplines à tout niveau. Il faut savoir qu'on a des gens chez nous qui ont bac plus 2, des gens qui ont bac plus 3, des gens qui ont bac plus, on ne compte plus. Voilà, il y a tout le spectre. Et puis des gens, des personnes qui font de l'administration, de la gestion de contrats, de la communication vers le grand public et tout. Voilà, il y a beaucoup de métiers. Il ne faut pas voir que le chercheur. Le chercheur, il est une petite partie et j'ai la chance de représenter. Et souvent, c'est nous qui parlons, mais il ne faut jamais oublier qu'on va parler au nom. Je parle au nom d'une équipe. Supercam, c'est 300 personnes en France. De tous horizons, de tous métiers, de toutes qualifications. Et donc, le spatial a cette chance d'avoir un objet d'étude extraordinaire, c'est l'univers, il n'y a rien de plus beau. Et puis, différentes façons d'y arriver avec vos compétences, avec vos talents pour les plus jeunes. Et donc, c'est un bel endroit où aller. Et j'invite les jeunes à faire se tourner vers l'espace, vers le haut, vers le ciel, et puis nous accompagner ce grand mouvement vers l'observation d'abord de la Terre, et puis ensuite peut-être quelques-uns d'entre eux partir vers la Lune, Mars ou même Jupiter.